là autant d'évolution que ce qu'il y en a pour le ver de terre à essayer de nouveau de se transformer en papillon et en oiseau géant. C'est pour cela que les conceptions humaines ou les théories qui sont distribuées largement dans les textes sont des conceptions qui sont valables, parce qu'il faut bien que l'intellect démarre sur certaines bases. Mais sitôt que l'on est capable d'un peu d'intuition, d'un peu de vision, d'un peu d'ouverture, de connexion avec l'âme, il faut oublier tout ce qui a été appris. Il faut l'oublier parce que sinon, les conceptions ne semblent pas amener à une réalité ni à une vérité. Et c'est ce qui fait que, sur le chemin, beaucoup de disciples, à un moment donné, rejettent les livres ou rejettent la théorie, sont complètement allergiques à tout ce qui peut être instruction. Ce phénomène-là est un phénomène nécessaire, il n'est pas nécessaire d'ailleurs de le faire durer toute la vie, mais c'est un phénomène nécessaire pour pouvoir déclencher la connexion avec l'âme, pour pouvoir remettre en question les conceptions. Les conceptions qui nécessairement dans les livres n'aboutissaient pas à cette intuition qui vient plus tard. Mais il fallait commencer à parler des choses. Il fallait structurer l'enfant qui commençait à penser. Donc l'évolution, ce n'est pas le seul phénomène qui part de la matière pour remonter à Dieu. L'évolution commence au moment même où l'âme est émise hors de Dieu, hors de la substance du Père. C'est à ce moment-là que commence l'évolution. Donc l'évolution, si on veut en parler en entier et de façon juste, quand on parle d'évolution, il faut aussi inclure le phénomène d'involution. Et si vous voulez savoir pourquoi vous évoluez, pourquoi l'âme doit s'incarner, quel drôle de jeu l'âme joue dans cet univers, et pourquoi est-ce qu'il faut évoluer, eh bien il faut tout autant étudier et réfléchir et essayer d'intuitionner l'involution. Je veux dire simplement, pour terminer sur ce petit sujet, que si l'homme veut comprendre non seulement le mécanisme, non seulement la substance, le pourquoi de la face blanche, il faut aussi qu'il aille voir et qu'il étudie tout autant la face noire. Sinon, il ne pourra pas comprendre ce qu'est le phénomène de la face blanche. Il pourra bien sûr essayer d'ériger des théories, de percer le secret, mais la racine sera toujours inconnue. Or, si vous voulez connaître l'entier du lotus, il ne faut pas simplement rester sur le bord des pétales, regarder le haut des pétales, et comme un papillon ou comme un insecte, vous ravir du parfum des pétales. Le disciple qui veut connaître la vérité en entier et de façon essentielle, pure, doit en même temps plonger dans les eaux et aller jusqu'à la racine du lotus. Et là, il prendra conscience et connaissance du principe de vie qui anime ce lotus et qui fait que, en arrivant à la surface de l'eau, le lotus est la couleur spécifique des lotus, la senteur spécifique des lotus, la forme spécifique des lotus. Tant que l'on essaye, depuis la région du lotus, de comprendre le lotus, savoir pourquoi il a telle odeur, telle forme, tel nombre de pétales, et pourquoi est-ce qu'il repose sur l'eau, tant que l'on essaye depuis cette zone de comprendre, on n'y arrivera pas. Ou du moins, à un moment donné, les explications ne seront plus valables. Cela ne donnera plus nourriture, cela ne sera plus une certitude pour l'individu. Et à un moment donné, il plongera nécessairement jusque dans la racine. Donc il faut expliquer tout autant l'involution que l'évolution. Et de ce fait, on s'aperçoit que l'univers est une grande roue qui va d'un point, je ne dirais pas d'inconscience, mais d'un point, je dirais tout simplement, de stagnation en soi-même, où bien sûr il est très profitable de vivre, mais où il n'y a pas véritablement la vie active, de ce point-là jusqu'à la cristallisation, et puis l'on retourne à la grande vie, mais avec cette fois la proximité d'un feu qu'a permis justement la cristallisation. Et c'est ce feu que l'on tire de la matière, que l'on tire des expériences physiques, que l'on tire de la douleur physique, c'est ce feu que l'on appelle ensuite la conscience. L'autoconscience, la capacité de se diriger, la capacité d'être aussi un créateur ensuite, parce que l'on arrive non seulement à voir la loi, à comprendre la loi, mais aussi à concevoir d'autres lois. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, dans son évolution, l'âme ou l'homme va dépasser Dieu, supplanter Dieu. Non, mais cela veut dire qu'à un moment donné, il va lui falloir être suffisamment actif pour pouvoir participer à la vie cosmique, à la vie de la création. Et là, s'il n'est pas une entité capable d'être autoconsciente, capable de diriger des forces, d'être l'intermédiaire, le transmetteur de certaines forces, automatiquement la création ne pourra plus avoir lieu. Or, la création doit continuer à avoir lieu, sans cesse. Parce que exactement comme le blanc est la racine du blanc, du noir, pardon, et comme le noir est la racine du blanc, automatiquement, si l'on transporte ce principe au niveau de la vie divine, ou au niveau de l'état divin, je dirais plutôt, si l'on transporte ce principe, eh bien on s'aperçoit que la création ou le phénomène de la création est indissociable de la vie de l'esprit divin. Donc il est aussi absolument nécessaire que l'homme ou que cette étincelle divine qui a commencé une vie dans la matière puisse un jour, lui aussi, cet homme, a participé à la création. Il faut donc qu'il devienne lui aussi créateur, que ce soit d'une façon restreinte, d'une façon assez enviable, ou d'une façon complètement divine, complètement cosmique, parce qu'ayant complètement à ce moment-là rejoint la source qui émet la vie. Ce qui veut dire donc que lorsqu'un homme essaye de se comprendre lui-même, lorsqu'il essaye de faire le point sincèrement, non seulement avec son évolution, mais aussi avec ce qu'est la nature, sa nature cosmique, sa nature divine, sa nature humaine, il ne doit pas simplement imaginer le phénomène évolutif. Il faut qu'il arrive à concevoir le phénomène involutif. Sinon, il n'arrivera pas à faire au cours de l'évolution tous les efforts nécessaires, tous les sacrifices nécessaires. À un moment donné, il sera fatigué, il dira « Non, je vais me reposer un peu. Non, là, je vais prendre quelque temps. Après tout, j'ai plusieurs incarnations disponibles face à moi. J'ai même plusieurs cycles. » Si l'on ne connaît pas l'involution, on ne va pas pouvoir concevoir véritablement l'évolution. Parce qu'on ne saura pas ce qui est primordial dans l'évolution. On ne saura pas sur quel point il va falloir véritablement insister. Il faut se rendre donc de plus en plus conscient, tout simplement. Et ensuite, tous les phénomènes que l'on appelle, que ce soit la mort ou que ce soit l'incarnation elle-même, ainsi que tous les autres phénomènes qui accompagnent la vie sur un plan physique, que ce soit l'intuition ou que ce soit la capacité de sortir hors de son corps, toutes ces choses-là deviennent simples, naturel, facile à expérimenter. Ce qui ne veut pas dire que vous allez pouvoir expérimenter toutes ces choses forcément ici et maintenant. Mais ces choses deviennent une spontanéité et non plus un exercice auquel on doit s'entraîner, un but que l'on essaie d'atteindre. Cela devient une spontanéité. Toutes les notions sont rangées, toutes les choses sont estimées à leur juste valeur et dans l'axe qu'il faut. Donc tous les atomes qui constituent l'âme et le lien entre l'âme et la personnalité elle-même, tous ces atomes-là sont bien rangés, alignés, et ils arrivent donc à produire des expériences, à produire des phénomènes. et tout ce qui semble difficile à obtenir aujourd'hui devient facilement accessible. Tout simplement parce qu'il y a l'alignement correct, la conception correcte, donc il n'y a pas perte d'énergie. Pour qu'il y ait expérience, que ce soit en méditation ou à propos de quelque autre exercice, pour qu'il y ait expérience, il faut que toutes les énergies soient bien concentrées, bien conservées, bien alignées, pour qu'il y ait là l'occasion d'un dynamisme. Si au contraire, il n'y a pas d'alignement, si les conceptions vont dans toutes les directions, de façon confuse, et que la pyramide n'est donc pas construite sur des fondations solides, droites, géométriques, automatiquement, les énergies vont elles aussi être dispersées. Et le bâtiment va aller de gauche, de droite, trembler, ne pas être assez solide, comme s'il y avait sans cesse dans le sol un séisme qui dérange l'individu et qui le menace de le faire s'écrouler à tout instant. S'écrouler non seulement dans sa détermination, dans sa capacité à faire des efforts, à être discipliné, mais aussi dans ses convictions. Donc, par rapport au texte qu'il étudie, aux sagesses qu'il est en train d'étudier et aux idées qu'il en tire. C'est pour cela que vous voyez dans la vie des gens qui vont sans cesse d'une école à une autre, d'un gourou à un autre, et qui ne savent pas lequel dit la meilleure chose. Tout simplement, ils ne sont pas alignés. Même si l'on a affaire à des débutants, qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, il faut avant tout apprendre le soin et avoir le soin de les faire s'aligner. De ce fait, même leur discernement, même s'il n'est donc pas instruit, ce discernement va pouvoir quand même avoir lieu. Parce que quand il y a alignement, qu'il y a concentration de cette énergie, il y a un bon sens naturel, puisque tout devient spontanéité, il y a un bon sens naturel qui se crée automatiquement. Et alors l'homme sait où il doit aller, sait à qui il doit se référer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne commettra pas d'erreurs, il peut commettre des erreurs. Mais lorsqu'il s'en référera chaque fois à son intuition, il sera bien guidé. Donc pour cette âme en évolution, je dirais plutôt en révolution, car il s'agit de faire le tour de la roue, involution, évolution, pour cette âme qui est donc en révolution. Il s'agit de s'approcher de plus en plus de la cristallisation que permet l'incarnation. Et au moment où la cristallisation est la plus dure, au moment où aussi l'âme est la plus proche de la matière, ensemble, alors, ces deux pôles fusionnent et créent une unité. Et c'est ce moment-là que l'on appelle la naissance. La plupart des individus croient que l'instant de la naissance est l'instant où, au contraire, l'âme s'échappe de la matière. L'âme s'échappe du corps, du conditionnement de la personnalité. C'est vrai qu'à ce moment-là, la personnalité, elle, doit être complètement dissoute. Cependant, il est une autre vérité, c'est que l'âme se trouve complètement dans la matière et plus que jamais à ce moment-là. Et c'est pour cela que l'instant où l'âme est considérée comme la plus libre, et l'esprit aussi, c'est en même temps l'instant où l'âme est aussi la plus enchaînée à la matière. Et en même temps, pour se désenchaîner de cette matière, elle use de cette même liberté qui est issue de cette matière, de cette cristallisation. Et c'est pourquoi il y a le passage sur la croix. La croix paraît être donc l'endroit où l'homme est comme fixé, dont il ne pourra pas se débarrasser, l'endroit où l'homme est complètement figé, et c'est en même temps de là, de cet endroit même où il est figé et fixé, qu'il va pouvoir renaître. Pour bien intuitionner ce moment, il faut pouvoir balancer avec le paradoxe. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour pouvoir bien contempler le blanc, il faut aussi contempler le noir et vice-versa. Lorsqu'il y a donc la décorporation, lorsque l'âme sort de son corps à cause de la mort, à ce moment-là, l'âme, suivant son niveau, j'en parlerai un petit peu au cours du discours, l'âme, suivant son niveau, va soit immédiatement être réintégrée dans la capacité d'être une autoconscience qui est propre à la substance de l'âme, c'est-à-dire qu'en fait, soit l'âme va retourner à son sommeil divin certes, mais sommeil quand même, soit elle va, grâce à la cristallisation peu à peu acquise par les incarnations, va pouvoir rester dans certains endroits célestes, dans certains plans, où une certaine activité a lieu et qui est en directe correspondance avec le type de cristallisation acquis. Ce qui fait que, lorsqu'un individu passe de l'autre côté, il ne va pas nécessairement rester à côté de ses proches, comme le croient beaucoup de voyants ou comme le croient beaucoup de sentimentaux et de romantiques. Celui qui passe de l'autre côté ne va pas non plus nécessairement devenir un guide, même s'il est petit, même s'il ne fera que les choses dont il est capable, parce qu'il ne va pas forcément pouvoir garder son autoconscience dès qu'il va passer de l'autre côté, puisqu'il va être défait, démuni de la cristallisation que permettait la matière. Il y a donc des personnes qui vont être réintégrées tout de suite dans leur sommeil divin. C'est pourquoi il y a des zones dans le pays de la mort, si je puis m'exprimer ainsi, il y a des zones où l'on dort profondément. Les gardiens surveillent d'ailleurs ce sommeil pour voir non pas si tout se passe bien, mais pour voir si le jeu avec les quelques symboles qui ont été acquis durant la cristallisation, l'incarnation, pour voir si ce jeu se passe bien, s'il demeure constructif, si le rêve, en quelque sorte, est bien vécu. Pour ceux donc qui ont des symboles très négatifs, parce que leur incarnation a été très négative, très néfaste pour les autres surtout, pour ces individus-là, donc, l'accès aux symboles est complètement effacé. C'est-à-dire que la mémoire devient noire. Il n'y a même plus de capacité à être légèrement autoconscient. On plonge cette unité de conscience dans un oubli complet et profond. Il semble que face à la loi du karma, cela soit une faveur qui est faite à ces individus qui ont fait beaucoup de mal. Cependant, il faut savoir que lorsqu'un individu réintègre sa nature cosmique, la nature et en plus le degré auquel il exprime cette nature, donc lorsqu'il est réabsorbé juste et simplement dans son état d'être, si on le laisse s'amuser avec les symboles négatifs qu'il a créés pendant sa cristallisation, il va polluer, on peut dire le mot pour déclencher le concept, il va polluer le plan sur lequel il se retire. Et ainsi, tout un plan de vie va continuer à être embêté, ennuyé, agressé, de la même façon que cet individu, lorsqu'il était incarné, agressait le plan physique des autres personnes. C'est pour cela qu'il faut absolument plonger l'individu dans l'oubli, dans le sommeil profond, pour que le plan ne soit pas contaminé et pour que ces individus ne se contaminent pas encore les uns les autres. Lorsque l'on a affaire à quelqu'un d'un peu plus évolué, quelqu'un qui en plus a commencé une bonne cristallisation, une bonne capacité à être autoconscient et à pouvoir diriger des activités, diriger des flux d'énergie et les commander, à ce moment-là, la mort est complètement différente. Cela n'a plus rien à voir avec la mort des autres personnes. Ce n'est plus la mort, d'ailleurs. C'est tout simplement un changement de plan. Il n'y a pas le risque de perte de la conscience, d'identification donc. Puisque la cristallisation est assez avancée, l'individu peut pleinement garder la même conscience qu'il avait sur le plan physique, avec en plus l'avantage de ne plus être limité par le conditionnement qu'apportait cette personnalité spécifique et éventuellement certains défauts, comme l'exagération de certaines de ses qualités. Et c'est dans ce niveau-là que l'on peut rencontrer des êtres intéressants qui vont continuer à travailler pour l'avancement, soit de leurs frères, soit d'un groupe plus grand. comme le groupe d'une région, ou le groupe d'une religion, ou le groupe d'une nation, ou soit l'humanité entière. Il faut monter un peu plus haut pour rencontrer des gens qui, en plus de cette capacité à rester conscient, vont aussi être très actifs comme ils peuvent l'être en pleine activité sur le plan physique, mais ceci par rapport à un égrégore, par rapport donc à un collège de guides, d'initiés et de maîtres. Pour rencontrer ces êtres-là, il faut monter un petit peu plus haut dans la capacité d'être autoconscient. Parce que, en plus donc de l'autoconscience, il aura fallu développer par un réel effort de disciple la connexion avec ses maîtres, avec le temple, avec l'égrégore. Ce qui fait que vous pouvez rencontrer dans le plan moyen, où beaucoup d'individus peuvent servir de petits guides, de petits protecteurs, et que vous pouvez rencontrer à l'occasion de rêves ou de dédoublements, ou qui arrivent, s'ils ont assez de pouvoir, qui arrivent quand même à se faire apparaître, à se faire rendre visible. Dans cette zone-là, donc, vous pouvez rencontrer beaucoup d'individus. Mais chaque fois que vous rencontrerez ces individus, vous allez rencontrer l'équivalent des capacités qu'ils avaient sur la Terre, et aussi l'équivalent de leurs limites. Par contre, dès que vous rencontrez quelqu'un qui est un cran au-dessus, qui est donc connecté avec un temple, connecté avec une tradition, connecté éventuellement même avec un maître, automatiquement cet individu ne va pas vous dire ce qu'il conçoit, vous dire ce qu'il comprend, vous dire ce qu'il a imaginé à propos des choses. Il va être le simple transmetteur de ce que le guide a à vous dire, de ce que le maître a à vous dire et qu'il ne peut pas venir vous dire parce que, par exemple, vous n'êtes pas assez ouvert à ces vibrations ou pas assez encore en connexion avec le temple ou tout simplement parce que ce n'est pas le moment d'une véritable rencontre. Et ce sont ces êtres-là, ces petits intermédiaires-là, qui peuplent tout le monde de la spiritualité. Avant de vouloir ou de pouvoir rencontrer le maître, il faudrait que vous essayiez ou que vous désiriez, mais de façon calme et sereine, il faudrait que vous désiriez rencontrer cet intermédiaire-là d'abord. Car lui va pouvoir vous dire comment vous préparer pour rencontrer le maître ou l'initiateur. Lui va pouvoir finir de raboter par-ci, par-là, ce qui ne va pas. C'est lui qui va en même temps vous prendre la tête et vous l'enfoncer dans ce qui ne va pas dans votre vie, dans vos habitudes. C'est lui en même temps qui va s'engager vis-à-vis de vous, qui va être responsable vis-à-vis de vous, qui va s'engager pour que vous compreniez ce qui est à comprendre et pour essayer de vous faire arriver à la bonne heure, au bon endroit, face à l'initiateur. C'est lui qui va s'engager sur son âme, exactement comme vous, vous vous engagez sur votre vie, à prendre soin d'un plus petit que vous, à prendre soin d'un enfant aussi, par exemple. Mais il ne prend pas pour autant le poste d'éducateur. Il n'a pas cet orgueil, ni cette folie, ni cette prétention, ni cette ignorance. Il n'est pas l'éducateur, il est le transmetteur et l'éveilleur. C'est lui qui éveille aux choses qui sont négatives en vous, de même qu'aux choses qui sont positives et que vous ignoriez complètement. Pour en revenir au passage de l'autre côté, lorsque donc vous avez toute votre vie fait un travail de disciple, que vous avez cherché la vérité, que vous avez essayé de tendre de toute votre force vers la vérité, il y a simplement donc le passage de l'autre côté, hors du corps, à travers le rideau de lumière. Il n'y a plus le tunnel dont on parle si souvent. Si vous pourriez très facilement, par exemple en ce moment, parler avec les morts qui sont de l'autre côté, ils vous diraient « mais j'ai pris un tunnel qui n'en finissait pas ». Et plus longue a été ma vie et plus long était ce tunnel. Et plus j'ai fait d'erreurs, plus j'ai connu d'obstacles que je n'ai pas réussi à résoudre, et plus il y avait de secousses dans ce tunnel. Alors que pour ceux qui ne meurent pas, pour ceux dont l'autoconscience est déjà suffisamment développée, de même que une certaine spiritualité, il y a simplement un voile qui est traversé, Exactement comme vous passez un seuil. Il n'y a plus de tunnel parce que vous n'avez plus besoin de passer à travers une dimension et d'une dimension à une autre. Puisque la dimension de l'âme, la dimension spirituelle, existait déjà en vous. Donc, quand vous connaissez la mort, vous n'avez simplement qu'à vous débarrasser du corps physique. Et il y a simplement le petit voile, la petite cloison qu'il y a entre ces deux plans à passer, c'est tout. Et vous trouvez de l'autre côté, immédiatement et tout de suite, souriant et plein d'amour, content enfin de pouvoir vous rencontrer vraiment sans devoir passer par l'épaisseur de l'intellect, sans devoir passer par l'épaisseur du rationnel qu'émet le cerveau physique, votre guide. Quand je dis guide, je dis celui qui s'est engagé comme intermédiaire à veiller sur vous et à éveiller de temps en temps votre feu et à essayer de vous faire prendre conscience de vos négativités comme de votre positif. C'est celui-là qui vient vers vous. Et il vous reçoit comme un frère, il n'est pas là comme un guide qui attend la grande venue et qui attend à ce moment-là d'être remercié pour tout le travail qu'il a fait. Non, c'est un frère qui vous serre la main, qui vous retrouve après un long voyage de l'autre côté. Et c'est lui qui vous amène à la chambre où là, pendant un certain temps, vous allez devoir vous débarrasser des vibrations un peu trop épaisses en provenance de votre incarnation physique. Dans cette chambre qui existe vraiment, qui est comme une chambre physique, sur un plan physique, dans cette chambre, vous allez apprendre à oublier un petit peu le jeu de certaines vibrations physiques qui vous ont un petit peu encore collé à la peau de la conscience à ce moment-là. Lorsque ce nettoyage est accompli, lorsque cette purification est accomplie, alors si vous êtes de ceux qui pouvaient et qui devaient vivre dans l'aura d'un maître, qui pouvaient connaître le maître, alors vous êtes amené tout simplement dans le sein du temple. Et vous menez là la vie que l'on mène dans tous les temples, avec par instant la cohabitation avec le maître ou avec les initiés, et par instant la vie avec vous-même et le travail à faire sur d'autres frères, incarnés ou pas d'ailleurs. Car il y a beaucoup de travail qui est effectué sur le plan subtil, sur le plan invisible, vis-à-vis d'autres personnes, elles-mêmes aussi devenues invisibles, ayant donc passé par la mort. Tous les guides, tous les intermédiaires, tous les frères, une fois désincarnés, ne vont pas exclusivement travailler en connexion avec l'humanité physique. Étant donné qu'il y a beaucoup plus d'âmes dans le domaine de la désincarnation que dans le domaine de l'incarnation, il est normal de pouvoir soupçonner que certains vont travailler avec d'autres individus aussi désincarnés. Alors il y a le système de ce que l'on peut appeler les classes, tout simplement, où l'on donne des cours, où l'on fait faire certains exercices, exactement comme un maître incarné ou un guide incarné le ferait sur la Terre. Et celui qui est d'une évolution suffisante va se retrouver responsable d'une certaine classe, avec un certain nombre d'âmes, donc d'unités de conscience, à renforcer, à développer et à préparer pour leur incarnation physique. Car il ne s'agit pas simplement de s'incarner et puis de lancer simplement la roulette du hasard, on verra ce qui arrivera, on verra si je comprends, on verra si je peux faire, on verra si je peux compter sur mon acquis des incarnations pour voir si tout ça va finalement marcher et donner lieu à une évolution. Non, une incarnation, ça se prépare et ça se prépare minutieusement parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On ne peut pas se permettre de gaspiller un corps. On ne peut pas se permettre de gaspiller cette seconde que représente l'incarnation. Donc il faut la préparer pour que toutes les choses qui sont à traiter, tous les dossiers qui sont à vivre, à ouvrir, à traiter, à étudier, à conclure et à absorber, pour que tous ces dossiers-là aient une chance d'être abordés. Donc il faut préparer l'incarnation. Et c'est là où interviennent justement ces êtres d'une certaine évolution qui vont préparer d'autres êtres qui leur sont inférieurs à leur incarnation et qui vont leur dire attention, l'incarnation c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez vivre telle et telle expérience, vous êtes à tel et tel niveau, donc vous allez rencontrer tel type de résistance. vous allez rencontrer tel type de don, tel type de faculté, de facilité. Et vous allez développer tel type de feu. Et au fur et à mesure des explications, les individus qui assistent et qui se renforcent de ces conseils les mettent dans leur mémoire. Ce qui fait que lorsque cette âme ensuite est projetée dans la matière, dans l'incarnation, eh bien cette âme arrive avec un certain nombre de données, qui fait que spontanément elle va chercher son destin. Qui fait aussi que typiquement son ciel de naissance, son thème astrologique donc, va être typé, très déterminé. Automatiquement, la vie qui se déroule ensuite devient plus facile et arrive ce qui doit arriver. En tout cas pour les points majeurs, pour les points importants. Et aucune âme ne peut rejeter le dossier qu'elle s'est promis d'étudier lorsqu'elle était là-haut dans la classe. C'est comme cela aussi que l'on trouve le développement de certaines facultés, parce qu'il y a des facultés qui ne se développent absolument pas depuis le plan physique, mais qui se développent complètement dans ces classes, grâce aux exercices que l'on fait dans ces classes qui ont lieu dans le monde subtil. Et ensuite, la personnalité s'en trouve dotée. Mais en fait, la personnalité ou l'unité physique n'aurait jamais pu, n'aurait jamais su développer telle ou telle faculté. Par contre, elle arrive très bien à articuler la faculté ou à profiter de la faculté. Et il en est, cette raison est la raison majeure ou la racine majeure de l'existence de nombreux guérisseurs, par exemple. Un guérisseur ne peut pas se former sur un plan physique. Un guérisseur n'existe pas un jour parce qu'il a essayé pendant de nombreuses incarnations de guérir ses semblables. Si dans le réseau de son âme n'ont pas été formés déjà des processus d'envoi d'énergie, d'extériorisation d'énergie et de capacité à diriger cette énergie jusque sur un plan physique, l'unité que l'on va ensuite appeler la personnalité ne pourra jamais agir en tant que transmetteur de ces énergies si elles ne sont pas envoyées d'abord donc par l'âme. Ce qui fait que de nombreux talents sont développés dans les classes, projetés ensuite dans la matière, donc dans l'expérience, dans la cristallisation encore une fois, donc dans la possibilité du pouvoir. Ce qui est capacité dans les classes devient pouvoir ensuite lorsque cela passe dans la cristallisation de la matière. Et cela devient un bénéfice aussi pour les autres. Donc, lorsque l'on parle de la désincarnation ou de la mort n'est pas du tout la même pour tout le monde. Elle est particulière à chaque personne. Elle est particulière à chaque niveau de conscience. Et en fait, pour parler véritablement de la mort, il faudrait dire qu'il n'y a pas véritablement de région où la mort existe et où la vie existe. Donc, où l'incarnation existe et où la décorporation existe. C'est tout simplement le mouvement d'une seule et même énergie qui passe non pas à travers différents états, mais à travers différents types de mouvements et d'accès à un mouvement. Lorsque l'on est dans la matière, le type de mouvement de l'âme est très cristallisé, très spécifique. C'est l'expérience. Lorsque l'on se trouve sur d'autres plans, le type de mouvement n'a plus tellement lieu d'expérience. C'est un mouvement de contemplation ou d'absorption, par exemple, ou de distribution. Cela dépend complètement de la nature de l'évolution de l'individu. Donc l'on ne peut pas dire « la mort c'est ceci, la vie c'est cela ». Il y a un mouvement qui est le mouvement de l'âme, qui est ce mouvement de révolution à travers l'involution et l'évolution. Et à l'intérieur de ce grand mouvement, il y a d'autres mouvements plus petits qui permettent justement des réajustements, des énergies et des niveaux de conscience. Lorsque l'on veut savoir comment bien passer de l'autre côté, pour pouvoir se trouver là-haut frais et dispos, se lever d'un bon pied comme l'on se lève d'une bonne nuit, et pour pouvoir commencer tout de suite à travailler avec les guides pour le bien des hommes, il faut avoir mené une vie qui soit semblable à celle que l'on veut mener de l'autre côté. Ce que l'on fait ici, on le fera là-haut, en correspondance directe. Si ici vous êtes un méditant, eh bien là-haut vous allez continuer à méditer, puisque c'est la chose que vous êtes capable de faire. Si ici vous êtes un guérisseur, eh bien là-haut vous allez continuer à guérir. Comment? Est-ce que là-haut il y a des âmes malades? Est-ce que l'âme peut être malade? Il ne s'agit pas, bien sûr, du même acte de guérison. Simplement, il faut savoir que, en passant à travers l'incarnation et en passant sur des planètes comme la Terre, où l'on sait que la torture est quotidienne, où l'on sait que l'on peut mourir brutalement d'accident, où l'on sait que l'on peut mourir de façon traumatisante ou avoir vécu une vie extrêmement traumatisante. Il faut donc savoir que les âmes qui vont ensuite sortir de ce conditionnement vont être un peu comme un canard boiteux en quelque sorte, vont manquer d'énergie quelque part, ou bien avoir des protubérances d'énergie d'autre part, ou bien avoir comme des ulcères à coller à leur substance de l'âme, ou bien avoir tout simplement des pertes d'autoconscience. Et tout cela, il faut le corriger. Et les médecins de l'âme, à ce moment-là, interviennent et rectifient la substance, rectifient d'abord en passant par le corps éthérique, qui lui, donc, pendant les 3 jours qui suivent la mort, continue à exister. En passant donc par l'intermédiaire de ce corps physique, les médecins de l'âme arrivent à corriger tous les problèmes que l'individu a connus et qui a déformé son aspect, à déformer aussi sa substance et son énergie. Ensuite, l'opération depuis le corps éthérique est complètement abandonnée, car le corps éthérique n'est plus assez transmetteur puisqu'il commence à dévitaliser. Et c'est à ce moment-là où l'on met ces âmes-là dans ce que l'on pourrait appeler véritablement un hôpital cosmique, un hôpital céleste. Et ces individus se déplacent, miment leurs problèmes. Pour quelqu'un qui se déplace à ce niveau-là, il trouverait cela ou très comique ou horrifiant tout simplement, parce que les substances, les individus donc en désincarnation, miment et se déplacent de la façon dont elles éprouvent leurs problèmes. Si c'est par exemple quelqu'un qui a connu sans arrêt des peines de cœur, qui a été trompé, qui a été troublé et qui finalement peut-être est morte de chagrin ou s'est suicidée à cause d'une douleur intolérable, cette personne-là va être automatiquement, si on l'imagine comme une boule, puisque l'âme est ainsi, cette personne va être complètement introvertie, comme si l'on étirait les bords de la boule, exactement comme si on voulait en faire une assiette, et que l'on prenne ces bords et que l'on les enfonce à l'intérieur de la substance. De même, d'autres douleurs vont déclencher d'autres formes, si bien que tout d'un coup, lorsque l'on entre dans ces hôpitaux des âmes, on n'en a plus du tout l'impression d'avoir affaire à des âmes avec la forme spécifique et typique d'une âme. Il y a simplement des formes plus ou moins grises, plus ou moins ulcérées, plus ou moins rouges, plus ou moins cubiques ou triangulaires. Tout cela parce que la fréquence vibratoire qu'est l'esprit, qu'est la conscience, s'habille d'une substance qui équivaut au problème qu'elle a vécu sur la Terre. C'est pourquoi à travers les anciennes religions, il y a toujours ce que l'on appelle le culte des ancêtres. Et à l'heure actuelle, on ne comprend rien du tout à ce culte des ancêtres. Et pourtant, il est bon que cela revienne. Il ne s'agit pas d'honorer les ancêtres. Il ne s'agit pas de nourrir les ancêtres, mais bien de soigner la mémoire des ancêtres. L'énergie, même si elle provient de la planète et du plan physique, va trouver son chemin jusqu'à l'endroit de cet hôpital et favoriser le retour à une dimension, à une forme normale pour ces âmes-là. Donc, lorsqu'un individu veut sur un plan subtil, lorsqu'il sera désincarné, devenir tout de suite opérationnel pour continuer à répandre le bien, continuer aussi à être opérationnel vis-à-vis de lui-même pour continuer à évoluer, il faut que sa vie physique ait eu cette même tendance. Sinon, il n'y aura pas de continuité. Il ne faut pas croire que la vie physique est une chose, que la vie de l'âme en est une autre. Et parce que l'on trouve une dimension nouvelle, avec des subtilités nouvelles, avec une conscience nouvelle, on va être mieux, on va pouvoir faire plus de choses et l'on va pouvoir comprendre davantage. Tout est dans la continuité. Il est certain que de l'autre côté, on va pouvoir comprendre différemment. Ce qui ne veut pas dire que l'on va comprendre plus, mais l'on va comprendre différemment parce qu'il n'y a plus l'obstacle du conditionnement du cerveau physique et de la matière. Mais cela ne veut pas dire que l'on va comprendre plus. Cela va être différent. Par exemple, la notion d'énergie sera évidente, alors que pour l'instant, sur un plan physique, c'est une abstraction que l'on essaye de comprendre et qu'on ne ressent pas de l'intérieur. Lorsque l'on est désincarné, cette notion devient évidente depuis l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais c'est un monde de différence. Mais ça, justement, c'est un plus. Bien sûr, c'est un plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la même perception vous est tout à fait accessible, même sur un plan physique, et il vous suffit pour cela de rentrer dans le monde de cette dimension, dans le monde où cette énergie vit et prend mouvement. Il ne faut pas rester là dans la matière et attendre de comprendre les choses avec ce que l'on peut, avec ce que l'on peut imaginer, avec ce que l'on peut comprendre, avec ce que l'on peut essayer d'abstraire depuis le cerveau. Il faut utiliser la méditation et pas simplement comme un moyen d'ouvrir les chakras, comme un moyen de s'ouvrir sur l'âme. Il faut l'utiliser aussi comme moyen d'enseignement, comme moyen de connexion avec la vérité. Qu'est-ce que la méditation donc ? On en revient à se poser la question. Qu'est-ce donc que la méditation véritablement ? On peut dire que la méditation est beaucoup de choses, qu'elle est un moyen alchimique pour ouvrir les chakras. Si l'on ouvre les chakras, on développe le taux de conscience. On peut dire aussi que c'est une technique pour trouver un lien avec l'âme et ainsi recevoir les intuitions et de plus en plus devenir l'essence même de l'âme. On peut dire beaucoup de choses parce que la méditation peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce en fait que l'acte de la méditation ? C'est ouvrir une porte. Et ouvrir une porte, c'est quelque chose de très simple, mais vous pouvez ouvrir la porte pour faire une multitude de choses. Ça vous ouvre simplement la porte. Ce que vous allez faire ensuite, après la porte, cela vous regarde. Cela dépend avec quelle détermination, avec quel but vous avez ouvert la porte. Donc, quand vous ouvrez la porte, quand vous vous placez en méditation, si vous ouvrez la porte pour rencontrer votre âme, vous allez méditer par le moyen traditionnel, la contemplation, la perception du divin et l'attraction du divin en vous et l'ouverture au divin. Si vous ouvrez la porte pour rencontrer la sagesse, automatiquement vos énergies vont prendre un autre chemin, réveiller d'autres pétales du même chakra dans lequel et par lequel vous méditez, parce que tel est votre rayon ou tel est votre niveau d'évolution pour l'instant ou tel est votre type d'ouverture. Mais c'est simplement à l'intérieur de la fleur du chakra un autre pétale qui va entrer en résonance et qui va vous permettre par réflexion, par phénomène de reflet, d'aller voir ce qui est écrit dans le pétale cosmique correspondant. Alors que dans votre pétale à vous, il y a la question, dans le pétale cosmique correspondant, il y a la réponse. Et par le phénomène de la réflexion, et par le phénomène aussi du voyage des informations d'un endroit à un autre, vous allez obtenir la réponse. Et vous allez l'obtenir précisément dans ce pétale-là. Ce qui fait que le travail n'est pas fini. Une fois que le pétale a reçu l'information, il faut qu'ensuite l'information puisse être traitée de façon intellectuelle, de façon cérébrale par le cerveau physique. Et c'est là où il y a souvent le plus de problèmes. Ce n'est pas tant dans la réception. De nombreux disciples arrivent à faire une réelle réception et une très bonne réception. Simplement, parfois, il y a des petits ajustements qui ne permettent pas de laisser passer l'entier de ce qui a été reçu. Pour que l'entier de ce qui a été reçu puisse passer, devenir audible sur un plan mental, devenir donc concret, intelligible, que l'on puisse contempler ce qui a été reçu. Il faut donc que le cerveau, lui aussi, soit souple, comme était l'individu tout entier, toute l'aura de l'individu au moment de l'ouverture, de l'envoi de la question et de la réception de la réponse. Il faut que le cerveau lui aussi soit très souple. Et c'est là où il y a des fois des problèmes. Parce que l'individu a souvent des convictions, des certitudes, des peurs aussi. Ou tout simplement une certaine paresse à essayer de percer, d'inclure certaines conceptions. C'est trop difficile, je ne comprends pas. Oh, ce n'est pas mon niveau. Et alors, on ralentit la capacité du cerveau à jongler avec des abstractions. Et plus loin donc avec des énergies, puisqu'une pensée peut devenir très vite une idée, et l'idée, si elle est suffisamment abstraite et poussée à son zénith, va devenir une pure énergie. D'où la capacité ensuite pour l'initié de penser et de produire tout de suite. Je pense et je produis. Je pense une énergie et elle va sur telle ou telle personne que je veux bénir, que je veux aider ou que je veux empêcher. Je pense et je crée.